Bienvenue dans le podcast Comme Julien, l'émission qui conjugue science de la communication, psychologie sociale et analyse de cas approfondis. Tout cela dans un seul et même but, découvrir comment mieux convaincre vos clients potentiels. Bonjour et bienvenue dans le podcast Comme Julien, je suis Julien Carcali et dans cet épisode, on va parler de la sauce secrète pour obtenir des messages percutants. J'ai un MacBook et pour enregistrer mes podcasts, j'utilise GarageBand, un logiciel de montage. Je n'ai jamais pris de cours et j'ai toujours bidouillé comme je le pouvais les épisodes que vous avez écoutés jusque-là. La difficulté numéro un auquel je faisais face jusqu'alors est la suivante. Lorsque je souhaite trouver un paramétrage simple, par exemple enlever un bruit de fond dérangeant, je cherche pendant 2 heures comment m'y prendre. Je passe d'un site web à un autre, d'un forum à un autre, sans pour autant trouver la solution qui me plairait tant. Un jour, je discute avec une vendeuse d'Apple et elle me dit « Saviez-vous que l'on offre gratuitement des cours pour savoir utiliser le logiciel GarageBand ?» Je restais bouche bée. Après plus de 9 mois à produire des podcasts en mode débrouille, cette personne me donne une solution sur un plateau d'argent. M'instruire. Et Apple l'a très bien compris quand sa vendeuse m'a proposé ses cours gratuits pour le logiciel de montage. Cette marque convainc ses clients d'acheter ses produits via l'éducation que cette firme offre à ses clients. Apple nous met en action en nous éduquant. Elle nous met en perspective les solutions qui s'offrent à nous avec ses produits. Ils communiquent en fait une passion commune avec nous, la créativité. Et éduquer nécessite de capter et garder l'attention des personnes à qui l'on parle de bout en bout. Éduquer, c'est aussi apprivoiser les différences de langage, de niveau de compréhension, d'intérêt du public à qui on s'adresse. Que ce soit des clients, des prospects ou simplement des visiteurs, les défis sont nombreux. Être assez convaincant, ne pas assommer les personnes à qui l'on parle d'informations inutiles, ne pas les faire fuir, ne pas heurter leur sensibilité. Pour cela, vous pouvez user de différentes techniques, que ce soit pour persuader ceux qui vous écoutent, les faire agir, les inspirer, voire même les attendrir. Et même si nous croyons, souvent à tort, que le message que nous divulguons est clair comme de l'eau de roche, nous devons comprendre que notre vérité n'est pas la leur, n'est pas celle de notre public. Et que ce que nous croyons proclamer haut et fort n'est pas toujours le message qui est entendu et compris. En écoutant ce podcast, vous allez certainement vous remémorer des moments de solitude où vous avez vainement tenté de transformer la vie d'un ami ou d'un client sans réussite. Et pourtant, si vous aviez pris connaissance des clés que vous découvrirez dans cet épisode, leur vie n'aurait certainement pas été la même et la vôtre non plus. La problématique n'est pas tant la connaissance elle-même, mais plutôt la transmission de cette connaissance qui peut être très variable d'un individu à un autre. Avant de continuer, pensez à télécharger la checklist qui vient en complément des épisodes de cette série et que j'ai créée pour vous. Celle-ci vous aidera à éduquer et communiquer efficacement sur votre entreprise et sur vos produits et services. Rendez-vous dès maintenant sur juliencarcali.com/arme. A-R-M-E. Faisons d'abord référence aux philosophes pour mieux comprendre nos mécanismes de communication. Stevenson Bryan a fait un TED Talk qui a remporté les faveurs du public. Et ce TED Talk était vraiment très complexe puisque c'était avec pour objectif de donner des vérités difficiles à entendre sur le système judiciaire américain. Et il nous livre certaines astuces qu'il a lui-même expérimentées durant ce TED Talk. Si vous commencez avec quelque chose de trop ésotérique ou déconnecté de la vie de tous les jours des gens qui vous écoutent, c'est difficile de faire s'engager les gens à qui vous parlez. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a commencé son TED Talks en parlant de sa grand-mère. Et donc, il parle toujours en premier lieu des membres de sa famille. Car les membres de notre famille, selon lui, sont les personnes avec qui nous sommes le plus en relation. Et c'est vrai. Ces récits ont pour but d'aider à comprendre le contexte. Ils sont très importants dans une communication efficace. Et pour cela, les philosophes, et notamment Aristote, ont conçu trois clés de la persuasion. Le premier, c'est pathos, deuxième, logos, et troisième, ethos. Ça vous rappelle peut-être des cours que vous avez eus étant plus jeune. Le pathos, c'est tout ce qui concerne l'émotion. Donc, quand vous voulez faire sortir des émotions, vous pouvez le faire par le biais d'histoires. Quand on parle de logos, c'est tout ce qui est logique, le côté analytique. C'est à cet endroit que vous parlez notamment de chiffres, de spécificités produits. Et troisième clé, c'est ethos ou l'évidence, la crédibilité que vous allez pouvoir créer, par exemple, grâce aux réseaux sociaux. À travers l'histoire, les théoriciens ont travaillé sur les clés de la persuasion et ont trouvé que les plus importants pour l'homme étaient le logos, l'analytique. Pourtant, quand on regarde l'étude du TED Talks de Stevenson, on remarque que sa puissante intervention contient 65% de pathos, donc d'émotion, 25% de logos, d'analyse, et 10% d'éthos, d'évidence. Donc on peut voir par là que l'émotion que l'on crée à travers notre discours est extrêmement importante et qu'il est nécessaire de raconter beaucoup d'histoires pour pouvoir émerveiller et attendrir les personnes à qui l'on parle. Une fois compris comment notre cerveau fonctionne, voyons comment mettre en action les mots que l'on prononce avec l'exemple de Bill Gates qui a fait une présentation sur la malaria, toujours dans les TED Talks. La malaria, bien entendu, est transmise par les moustiques. C'est ce qu'a dit Bill Gates pendant sa présentation. Il dit même « J'en ai apporté un pour que vous puissiez en faire l'expérience ». Et à ce moment-là, Bill Gates traverse la salle et libère un moustique de sous un globe. Et il dit « Je le laisse vagabonder parmi vous dans la salle. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les gens pauvres qui doivent en faire l'expérience ». Ici, Bill Gates viole les attentes. Il recherche l'attractivité, la crédibilité, la persuasion. L'élément qui crée la différence ici, c'est la surprise. Et c'est exactement aussi ce qu'a fait le patron d'Intel. Alors, je vais peut-être écorcher un peu son nom, mais c'est Krasnich. Krasnich, il présente un jour une démo d'un de ses produits, c'est une nouvelle technologie de caméra qui est appelée RealSense 3D. Pendant la démo, il invite trois amis à venir avec lui sur scène. Et là, d'un coup, trois drones font leur apparition et se mettent à tourner autour du patron d'Intel sans se percuter. Devinez ce que faisait cette caméra. Elle permettait aux robots qui étaient ici des drones d'être conscients de leur entourage. Encore une fois, et par le biais de cet exemple, Krasnich a mis en action les mots. Et peut-être que mettre en action les mots vous effraie. Alors pourquoi ne pas mettre un peu de perspective ? Ed Hallowell a décrit les troubles de déficit de l'attention des enfants. C'est un psychiatre leader et ancien membre de la faculté de médecine d'Harvard. Et donc, il est passé par deux descriptions différentes. Et on va vous montrer l'impact que ça peut avoir. Donc, le trouble des déficits de l'attention est un problème neurologique associé à l'inactivité excessive du lobe frontal du cerveau. Ça, c'est la première description. Cela se caractérise par une forte distraction, une hyperactivité, une impulsivité. Deuxième description, le déficit de l'attention, c'est comme avoir un moteur de Ferrari avec des freins de vélo. Forcez sur les freins et vous avez un champion. Les gens avec donc ces troubles de déficit de l'attention sont des inventeurs, des innovateurs, des gens qui bougent et qui sont rêveurs. Ils créent l'Amérique. Ça, c'est deux descriptions complètement différentes. À votre avis, laquelle remporte la clameur des foules? Je pense que je n'ai pas besoin de vous répondre. Ici, Ed Hallowell fait une analogie. C'est une comparaison entre deux choses qui sont semblables. Ça permet de faciliter la compréhension parce que cela permet aux idées abstraites d'être plus identifiables, plus compréhensibles. Si la personne qui écoute ne peut pas faire de lien dans une idée, cette personne trouvera difficile de se rappeler du concept et ne pourra pas agir avec cette information. L'analogie permet d'expliquer des sujets complexes. Cela nous aide à comprendre du matériel que nous connaissons peu et cela nous permet de l'associer avec du contenu que nous connaissons. Et en plus de l'analogie, on peut aussi utiliser des histoires personnelles qui permettent encore une fois d'attirer l'attention, de connecter avec l'audience et donc d'inspirer. Un autre exemple, c'est celui de l'iPod. Et j'en ai parlé dans la série de podcasts sur les messages percutants. Le premier slogan de l'iPod était « 1000 chansons dans votre poche ». Ces cinq mots ont permis de décrire exactement ce que faisait à l'époque le premier iPod sorti. Et c'est une analogie superbe qu'a trouvé Steve Jobs pour expliquer ce qu'était l'iPod. L'histoire de l'iPod est excellente, mais qu'est-ce qu'une bonne histoire? Alors, pour vous illustrer quelque chose, je vais essayer de vous mettre en condition. Rappelez-vous le retour de voyage d'un de vos amis. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Les villes qu'il a visitées? Le nom des gens qu'il a rencontrés? Je pense pas. Ce qui vous a le plus frappé, c'est, par exemple, comment il s'est perdu dans les souks de Marrakech et comment il a retrouvé son chemin 2 heures plus tard. La rencontre qu'il a faite, pourquoi pas, avec un Maori et tous les détails de partage qu'il a vécu avec lui. Ou la fois où un cobra lui est passé entre les jambes. Les histoires sont des moments clés et des péripéties qui arrivent à la personne qui est concernée. Et d'ailleurs, petite parenthèse et petit clin d'œil, ces histoires sont bel et bien réelles et elles me sont personnellement arrivées. Je vais différencier une histoire d'une bonne histoire. Une histoire, ça a un début, un milieu, une fin. Ce n'est pas éducationnel, cela ne vous implique pas, vous ne pouvez pas vous identifier et donc vous avez très peu de chances de pouvoir vous en inspirer. Une bonne histoire, ça a des détails spécifiques pour aider celui qui écoute à se voir dans cette histoire et donc dans l'histoire de la personne qui la raconte. Cela contient des spécificités qui ajoutent de la crédibilité dans l'histoire et transportent celui qui écoute dans le monde de celui qui raconte. Une bonne histoire, c'est par exemple Gary Vaynerchuk. Qui ne cesse de raconter son enfance, la vie avec son père, propriétaire viticole, sa jeunesse difficile et ses ancêtres juifs soviétiques. C'est cette histoire qui crée aujourd'hui cet entrepreneur et moi qui écoute régulièrement ses podcasts, il la rappelle très régulièrement. Je vous ai montré ce qu'est une bonne histoire, maintenant mettez-y un peu d'émotion. Transmettre de l'émotion et de la passion à travers un discours est loin d'être facile. La meilleure façon de procéder est de parler de sa propre expérience. Et c'est ce qu'a fait d'ailleurs une athlète paralympique qui s'appelle Mami Sato, qui a fait gagner les JO de 2020 au Japon, à Tokyo. En parlant de sa vie avant son cancer, elle a su capturer l'attention des oreilles de l'audience en racontant sa propre histoire. Et si vous faites comme Mami Sato, c'est ainsi que vous pousserez les boutons émotionnels de votre audience, avec pour objectif un impact émotionnel fort. Et si en plus de l'émotion, vous arriviez à ajouter une pointe d'humour, alors là vous êtes sûr de remporter les acclamations de la foule. Le rire génère de la dopamine. Celui-ci booste la mémoire et le processus d'intégration de l'information. En gros, c'est comme si, pour chaque information où vous intégrez du rire, vous mettez un espèce de post-it sur celle-ci. Et il y a un intervenant en TED Talks qui a vraiment su utiliser l'humour d'une façon très efficace. Il s'appelle Sir Ken Robinson. Et sa présentation s'intitulait « Do School Kills Creativity ». Durant les 5 premières minutes de son discours, Sir Ken Robinson a fait rire 10 fois son audience. C'est-à-dire qu'il a fait 2 rires par minute. Si on devait comparer avec « Very Bad Trip » en France ou « Lendemain de veille » au Québec, ce film a une moyenne de 2,5 rires à la minute. Vous vous rendez compte à quel point Sir Ken Robinson a vraiment fait rire son audience. Et les soins de points positifs à cela, c'est que cela vous permet d'aborder des sujets sensibles ou difficiles, cela garde votre public intéressé, cela permet à votre histoire d'être plus mémorable, cela fait que vos personnages paraissent aussi plus réalistes et cela donne du rythme à votre histoire. Et il ne s'agit pas toujours de faire des blagues, mais plutôt de faire rebondir votre audience sur des points particuliers. Encore une fois, allez télécharger la checklist qui vient en complément des épisodes de cette série que j'ai créée pour vous. Celle-ci vous aidera à éduquer et communiquer efficacement sur votre entreprise et sur vos produits et services. Rendez-vous dès maintenant sur juliencarcali.com/arme. A-R-M-E. Pour terminer cet épisode, si vous êtes abonné à mon podcast, celui-ci est le second d'une série sur les clés de communication. Restez à l'écoute du 3e numéro la semaine prochaine. Et si vous venez d'arriver sur mon podcast, les autres épisodes de cette série sont certainement déjà consultables. Alors, téléchargez-les maintenant. Et c'est donc ici que se termine cet épisode. Si vous avez aimé cette présentation, pensez à vous abonner au podcast Comme Julien pour ne pas manquer la suite. Que ce soit sur iTunes ou la plateforme de podcast de votre choix, vous pouvez trouver des instructions pour comprendre comment vous abonner en vous rendant sur juliencarcali.com/podcast. Et pour finir, si vous avez apprécié l'approche que je propose sur la communication, eh bien j'ai besoin d'un petit coup de pouce. Tout d'abord, commencez par me laisser une évaluation sur la plateforme de podcast que vous utilisez, surtout si vous utilisez iTunes. Et ensuite, si cet épisode vous a été utile, partagez-le avec une personne de votre entourage qui pourrait être intéressée. L'URL de ce podcast est mentionnée dans les commentaires de l'épisode. Vous pourrez y trouver toutes les ressources dont nous avons parlé aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine.